Bonsoir. Je voudrais d'abord, de façon liminaire, vous dire le regret que j'ai et la frustration que j'ai eue de ne pas avoir pu être dès ce matin parmi vous. Et l'autre point, c'est de vous dire également que nous avons participé, vous l'avez sans doute compris à travers les interventions des collègues qui m'ont précédé, nous avons participé à cette enquête à la réunion dans les lycées et les collèges et les écoles élémentaires, mais que l'intervention qui va être la mienne pour un certain nombre de raisons n'abordera pas directement ce corpus. Elle se situe en amont, elle s'arrête justement aux portes de ce corpus, si je puis m'exprimer ainsi, puisque ça va être un travail qui viendra ultérieurement. Alors, donc, je vais partir, ces deux points-là précisés, je vais partir, si vous voulez, de définitions que je voudrais les plus simples possibles, en espérant qu'elles ne soient pas trop simplistes. Il y a ici différents collègues qui ont énormément travaillé sur ces questions et qui les ont éclairées magnifiquement. On va partir, si vous voulez, d'une première définition de l'histoire, la plus simple, qui est qu'elle est une œuvre de recomposition à partir de tous les héritages. Alors, ça peut amener déjà un certain nombre de questions. Je ne vais retenir, à partir du territoire qui est le bien et de mon inscription dans cette réflexion et dans ma contribution à comprendre ce qui se joue, je ne vais retenir qu'une seule question. Comment faire entrer dans l'histoire nationale l'ensemble de ces héritages ? Oui, on me demande de monter la voix, donc je vais le faire. Donc, comment faire entrer dans l'histoire nationale l'ensemble de ces héritages et ensuite aborder une deuxième définition relativement simple, qui est celle de l'histoire scolaire, dont je vous propose de retenir comme définition, mais sans grande difficulté, c'est une espèce de mise en ordre d'événements pour une image que toute société souhaite donner d'elle-même et qui, bien évidemment, répond aux propriétés du moment. Alors, ce qui ne signifie pas qu'elle a obligation à l'exhaustivité, et que donc après, il faut aussi s'interroger sur ce qu'elle met de côté ou sur ce qu'elle décide de ne pas retenir, ce qui nous amène aux différents acteurs qui rentrent dans la fabrication de cette histoire. Les acteurs, les programmes, les manuels, les approches et les récits qu'ils mettent en scène et les diffusions qu'ils adoptent. Alors, c'est autour de ces rapports que je voudrais revenir en choisissant trois moments, trois temps bien distincts. Le premier qui est à la charnière donc de la transformation d'une société servile en société post-abolitionniste, c'est-à-dire donc aux alentours de 1848. Le second moment, c'est 120 ans plus tard, c'est en 1968. Et le troisième temps, c'est 1998. Je présenterai chacun de ces moments selon une logique d'exposition qui sera reprise pour aider à la clarté de mes propos, et je justifierai à chaque fois pourquoi chacun de ces moments. Donc, éclairer ces rapports autour de l'enseignement d'histoire, entre les exigences d'un cadre institutionnel, parce qu'il existe, qui est en général toujours à vocation centralisatrice, et les multiples discours de la société dans les différents espaces qui sont retenus ou qui peuvent être concernés. Alors, partons sur 1848, cette période charnière donc du basculement de la société servile. Donc c'est un ordre qui disparaît, c'est une société qui s'effondre, mais dont les logiques, pour ceux qui sont dans... que d'aucuns... cherche à les maintenir ou à permettre qu'elle subsiste. Alors, dans ce contexte, je ne dis rien à la fois de la Réunion, si ce n'est que ce que j'en aurais besoin dans mes propos pas plus que je dirais des choses sur les programmes, puisque c'est des choses qui ont déjà, enfin, qui ont été écrites et exposées dans de nombreux travaux. Alors là, dans ce cadre de cette société qui est en train de basculer, la question de l'école, elle devient devient un enjeu fondamental, parce que c'est la dernière. Nous sommes là dans l'entrée de la dernière catégorie d'une population dans un processus scolaire, et c'est la question de la scolarisation de ces enfants d'affranchis, hein, donc, qui jusqu'alors étaient interdits d'école au terme d'une définition classique que vous connaissez. Et pour notre part, le choix qui est fait est celui de confier cet enseignement aux congrégations, avec comme idée, de la part de Schœlcher, au pouvoir central et au pouvoir local, que ces congrégations seront sans doute peut-être plus malléables que des instituteurs laïcs, que sans doute aussi n'avait-on pas en nombre suffisant pour envoyer si loin, quand on regarde ce qui s'est passé pour les Antilles. Donc, ce sont aux frères des écoles chrétiennes que cet enseignement sera confié, et l'essentiel de ces écoles sont entre les mains des frères des écoles chrétiennes. Je ne vais pas poursuivre trop dans le développement de la pédagogie ni de l'enseignement des frères écoles chrétiennes, si ce n'est de vous dire que ça se fait sur la base d'un malentendu, parce que l'enseignement que cette congrégation souhaite dispenser dans son projet est plutôt émancipateur, et donc à rebours de ce qu'attendent la société coloniale et la société des notables, qui est une école de dépendance avec un enseignement limité et la transformation de ses élèves le plus tôt possible en ouvriers dans les champs de Cannes, parce que dans le même moment, sur le plan disons idéologique, sur le plan socio-économique, prend forme une thèse qu'on trouve aujourd'hui encore dans de multiples travaux savants: les affranchis ne veulent plus travailler la canne. Et ensuite, une autre version de ce processus, de cette définition ou de cette thèse, c'est qu'il manque de main-d'œuvre à partir des sociétés de l'océan Indien. Eh bien, et sans prendre trop de risques sur les projections pour les autres sociétés, et notamment les sociétés antillaises. De manque de main-d'œuvre, il n'y en avait pas. Mais se posait la question du coût du travail et de la reconnaissance de ce statut. Donc, on en vient à. Alors, donc, que font ces frères? Eh bien, ils publient. Je l'avais évoqué dernièrement dans une séance ici même il y a 2 ou 3 ans. Donc, ils publient un manuel. Qui est le premier manuel d'histoire, qui date de 1846 très précisément. Bon, j'aurais à travailler sur les éditions de 1853 et de 1863. Donc, ce manuel va être en application dans les écoles des frères, et ce manuel va être également en application dans les quelques rares classes laïques, et les versions successives de ce manuel, quand les frères seront chassés, pour faire simple, de la colonie, eh bien continueront à être utilisés ou à être présents dans les écoles laïques, qui vont rencontrer des difficultés, mais c'est pas le propos de mon intervention aujourd'hui. Alors, comment est organisé ce manuel? Eh bien, il est fait par ceux qui enseignent. Ce ne sera pas toujours le cas. Hein. Ce sont ceux qui enseignent qui font le manuel. Hein. Donc, il y a toute une méthodologie qui est organisée autour des cours, autour des réponses des enfants, autour donc des points qui sont discutés, qui sont centralisés, collationnés, et ensuite qui opère sur des choix, hein, comme pour tout manuel d'ailleurs, hein, qui opère sur des choix. Ces choix, en dernière instance, s'il n'y a pas un accord de cette communauté de rédacteurs à laquelle j'ai eu accès dans les documents et les échanges qui ont été publiés, eh bien c'est le supérieur général qui tranche. 3 registres, si vous voulez, sont priorisés. C'est celui donc d'une espèce de mythe insulaire et du côté hédénique de l'île. C'est celui de l'appartenance à la France, qui est la mère patrie et la pratique de la religion et la nécessité d'être un bon pratiquant, conjuguer donc ces trois registres devrait permettre à ces enfants d'accéder à la civilisation. La question de l'esclavage dans ses dernières années de convulsion et dans les années qui suivent son abolition, n'est absolument pas éludée ni évacuée. L'esclavage est dénoncé comme exploitation, comme système d'exploitation qui met en cause les principes religieux. Est également dénoncé tout ce discours commun autour du noir qui est enfin du noir au sens où il faut l'entendre de l'affranchi, de l'ancien esclave qui est un être quand il est qui serait pétri comment pourrais-je dire donc qui serait paresseux, qui aurait une aptitude très développée au vice, à la bamboche, etc. Et donc tout ce discours-là est dénoncé. Donc voilà ce qui se fait et ce qui se transmet. La méthode qui est empruntée, bon, elle est identique à ce qui se fait dans ces années-là sur ces manuels. C'est une méthode catéchistique avec une mémorisation assez importante qui est fournie et qui devrait permettre aux enfants d'avoir un certain nombre de repères. Je passe à la deuxième période, qui est celle de 1968. Je ferai la transition en vous disant que ces manuels des Frères des écoles chrétiennes, dans leurs éditions successives, vont être en circulation à peu près jusqu'aux années 20, de cette première équipe de rédacteurs. C'est en 1925 qu'apparaît le premier manuel qui va être rédigé par un instituteur laïque. Et ensuite, il va y avoir un nouveau manuel qui va être en application au-delà de la départementalisation qui date de 1946 et qui va donc circuler cette fois dans les écoles laïques parce qu'il y a il reste une école des frères, donc qui est lui également rédigé par un frère des écoles chrétiennes. Donc, ce qui aurait été intéressant, mais que je ne développerai pas, c'est de voir comment les choix qui ont été faits dans ces différents manuels ont évolué, et quelles ont été les priorités dans les temps qui ont, ou dans les séquences, ou dans les documents qui ont été retenus pour faire travailler les élèves. Donc, c'est la transition qui m'a amené à 1968. Le dernier manuel dont je viens de vous dire un mot, en fait, à partir des années 60, 60-65 à peu près, enfin, il disparaît. Il n'est plus usité dans les établissements scolaires. Pourquoi 1968 ? Parce qu'en 1968, le calendrier va faire se rencontrer plusieurs commémorations. Donc là, on rentre dans des choses qui sont un peu plus connues. Donc, trois commémorations. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment on s'empare localement de ces commémorations, qui s'en empare, et ensuite à quelle fin. Alors, de quelle commémoration s'agit-il ? Il s'agit donc du 120e anniversaire de l'abolition de l'esclavage, 1848-1968, 120 ans. Il s'agit du 100e anniversaire de la naissance de Lecomte de Lisle, et du 50e anniversaire du décès de Roland Garros, dont beaucoup sans doute ignorent qu'il était réunionnais. Alors, donc, nous sommes là, avant de poursuivre sur cette question, nous sommes là à une période très intéressante. Je dis tout de suite ce que je ne développe pas, c'est ce qui se passe, au sommet de l'État, sur la question des programmes. et des rivalités entre, disons, entre Pompidou et son entourage et ceux qui ont en charge les programmes d'histoire et la refonte de ces programmes d'histoire. Donc certains sont dans cette salle et qui ont écrit là-dessus, donc ça, je n'aborde pas. Hein. Mais on l'a, il faut l'avoir en tête. Alors l'autre chose, c'est que, et ce qui va me permettre maintenant de faire apparaître une notion d'échelle qui jusqu'ici était absente de mon intervention, c'est que si on regarde à partir de la France, c'est-à-dire à partir de Paris, les historiens du politique vous disent qu'on assiste là au crépuscule des années gaullistes, pour reprendre une formule hein, classique que vous connaissez. Si on regarde à partir de la Réunion, eh bien, au contraire, nous sommes dans ce qui inaugure ce qu'on a appelé les années de Bray, qui est devenu, qui est député de la Réunion depuis maintenant 5 ans, ancien Premier ministre, donc du général de Gaulle. Eh bien, nous sommes en 1968, enfin dans cette période à la fin des années 60, entre 65 et 60, enfin, alentour de 68, je ne dis rien des événements, c'est pas mon propos et ça n'a pas beaucoup d'intérêt dans ce qui suit. Nous sommes localement à une période qui est au paroxysme du combat qui oppose ce qu'on va appeler les nationaux, c'est-à-dire ceux qui défendent l'appartenance de la Réunion à la France, et l'anti-France. Alors l'anti-France, les nationaux, on peut voir à peu près clairement, parce que la phrase que je vous ai dite les définit à peu près clairement. Les contours de l'anti-France sont très poreux et sont très fluctuants en fonction de ce qui veut être, de ce qui pourrait être par ses positions, par ses attitudes, par ses conduites mises à l'index. Donc, la presse, les hommes politiques s'emparent de ces commémorations, pas les enseignants. Pas les enseignants, alors ou très peu. Pas non plus les syndicats enseignants. Le principal syndicat, tout à l'heure il l'avait nommé, donc le principal syndicat, c'est celui du syndicat national des instituteurs. Il y a une section du SNES qui est très peu développée pour une raison très simple. Il y a un lycée, il y a un deuxième qui vient de s'ouvrir. Donc il n'y a pas beaucoup de syndiqués là-dedans. Et ensuite, on peut après émettre des hypothèses. J'y reviendrai sur cette présence très faible ou très quasi inexistante des enseignants dans ce débat. La presse, et pour les nationaux, l'accent à choisir dans ces commémorations qui s'enchaînent, c'est la commémoration de Roland-Garros. C'est le cinquantenaire de la mort de Roland-Garros. Donc il y a toute une série de manifestations qui sont organisées. Hein, meetings aériens, timbres, expositions multiples, conférences, etc. La préfecture s'en mêle. Il y a des échanges entre le cabinet de Michel Debray et la préfecture. Donc le fil directeur, c'est quoi ? Le fil directeur, c'est Garros meurt dans les conditions que vous connaissez, donc c'est pour la première fois qu'il y a une conscription effective avec une participation des citoyens français des vieilles colonies à la Grande Guerre, hein, si on accepte ce qui s'était passé pour les bataillons de volontaires de la guerre de Madagascar qui était antérieure, qui était une guerre coloniale. Donc la Réunion, c'est la France. La Réunion, c'est ce que la France fait de mieux, c'est la vitrine de la France, c'est l'œuvre civilisationnelle, si vous m'accordez le terme de la France, j'ai pas envie de chercher un autre terme là. Donc, et c'est de cela qu'il convient, c'est sur cela qu'il convient de mettre l'accent. Il convient de mettre l'accent sur tout ce qui peut raffermir les liens entre la Réunion et la France et permettre de poursuivre l'œuvre de civilisation de la France qui se joue sur le plan politique à travers le statut de la départementalisation. Et ensuite, de façon plus mésovoïse, ce qui est également pointé, c'est que c'est une société fragile. faites, je ne l'ai pas dit, mais enfin ça vous le savez tous, hein, donc faites de gens venus de mille parts, pour reprendre cette expression d'un poète, et qui donc sur une terre vierge s'implante, rentre dans des certes dans un métissage qui n'est pas encore très très mis en exergue, mais qui reste quand même fragile en raison des apports différents, et que cette fragilité là si on met l'accent sur la commémoration de l'abolition de l'esclavage, cette fragilité risque d'être emportée, enfin cette fragilité déjà très présente risque d'emporter de disloquer la société réunionnaise. Donc gardons-nous de cela. Gardons-nous de cela, ce raisonnement vaut également pour le Comte de Lille. Parce que ce qui est mis de le Comte de Lille, c'est moins ce que vous connaissez, c'est-à-dire le chef d'une école parnassienne. C'est au contraire ce que certains considèrent comme un des fondateurs de la Troisième République ou du républicanisme autour de ses textes sur le travail, sur la justice, etc. Et en ce qui nous concerne, c'est le combat ce sont les prises de position qui ont été les siennes. Il appartient d'une famille aisée avec laquelle il va rompre. Il va rompre au nom justement de sa condamnation de l'esclavage. Et donc, ces textes-là sont connus. Le quotidien du Parti communiste réunionnais, je vous ai dit Debré, à l'autre extrême de l'échiquier politique, il y a Paul Vergès, qui est le secrétaire général du Parti communiste réunionnais. Alors, pour le Parti communiste réunionnais, au contraire, on est là dans un combat anticolonialiste. Il s'interroge sur le plan politique, sur la nécessité d'aller... Il me reste 5 minutes. Donc, il s'interroge sur le plan politique, sur la nécessité d'aller d'aller continuer à la voie électorale ou d'avoir recours à autre chose. Donc, il y a ce qui apparaît. C'est moins l'esclavage ou l'histoire de l'esclavage, mais l'histoire du marronnage. C'est une île montagneuse, il y a une toponymie, tous les noms intérieurs sont des noms de malgaches ou de chefs d'esclaves, donc c'est cela qui est mis en avant. Et donc c'est cela accuse les militants communistes et le Parti communiste. Ils accusent donc les nationaux de vouloir effacer, gommer ou trafiquer l'histoire. Donc ça, c'est la deuxième période. J'ai pas le temps d'expliquer ou de faire l'hypothèse de l'absence des enseignants dans cette affaire. La troisième période, c'est 1998. C'est le 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Alors, il y a là, si je reprends le même raisonnement, il y a là, sur le plan politique, il l'a dit, la décentralisation est déjà bien en place. Les comptes devraient être partis. Il a été chassé par ses amis donc de la Réunion. Le combat ne se joue plus en termes de autour du statut. Et ensuite donc l'accent est plutôt mis sur le développement de l'île. Le Parti communiste réunionnais est pratiquement aux affaires dans les assemblées locales. Il y a, contrairement à la phase précédente, cette fois un acteur important de cette question qui est la section réunionnaise de l'association des professeurs d'histoire et géographie qui a été créée l'année précédente et qui donc va dans tout ce qui tourne autour de la commémoration qui va donc autour de la question de la commémoration essayer de tenir les deux bouts de la chaîne, si je puis m'exprimer ainsi, à la fois le travail commémoratif et le travail d'enseignement, avec des discussions, des productions, des participations, à la fois sur le plan social, si je reste sur le plan commémoratif et mémoriel, et ensuite sur le plan pédagogique. Alors, je dois dire, dans cette partie, mais comme elle est écourtée, donc ça va faire, je prendrai un peu moins de risques, je vous exposerai à moins de risques, que mes propos ne sont pas complètement neutres, parce que j'étais le responsable donc du projet commémoratif. Nous sommes dans cette affaire, cette fois avec un rectorat, ce qui n'était pas le cas en 1968. Hein. Nous étions vice-rectorat. Nous sommes avec un rectorat, donc le rectorat joue complètement le jeu. Donc il y a toute une série de productions qui paraissent. Il y a l'inscription qui a été faite de, et si on change d'échelle cette fois, sur la question des abolitions et de la traite, de l'inscrire dans des espaces bien plus grands avec l'ensemble des pays de l'océan Indien, et ensuite, donc, ce qu'on pourrait dire aujourd'hui, les prémices d'une histoire comparée, à travers aussi l'inscription dans des programmes internationaux de l'UNESCO. Donc, je ne dirai pas plus sur cette troisième période. Si ce n'est en conclusion sur cette troisième période pour dire que la loi Taubira découle de cela. Le comité pour la mémoire de l'histoire et de l'enseignement de l'esclavage, avec Chirac après, va également découler de ce processus. Vous avez eu entre-temps les programmes de 2000, mais comme je n'ai rien dit des programmes antérieurs, donc je ne en dis pas plus. Si ce n'est que, comme l'a fait remarquer Laurence et quelques autres, quand Sarkozy dit il faut qu'on enseigne l'enseignement de la traite, au moment où il le dit, ça fait quand même quelques années que cet enseignement de la traite est déjà présent dans les écoles. Donc voilà mon troisième temps. Comment faut-il conclure mon propos? Alors, et de façon ramassée. Eh bien, je dirais tout simplement que ce qui a été décrit, qui mériterait donc d'être développé, va bien au-delà, à la fois du simple cas d'insulaire qui est la situation réunionnaise et sa singularité. Ce qui est posé, c'est peut-être aussi la question de la spécificité, mais de la spécificité justement de l'histoire, pas simplement du point à partir duquel on enseigne l'histoire, de la spécificité de l'histoire. Et si et une des tensions qui pourrait être relevée, nonobstant ce qui adviendra du travail que nous ferons à partir des travaux qui nous ont été fournis dans le corpus auquel nous avons participé. Donc, qui est plutôt la tension entre l'inscription d'un certain nombre de données locales dans les programmes nationaux et qui est aujourd'hui une des tensions les plus, enfin, me semble-t-il, importantes. Merci.